Alors bonsoir à tous, mon nom est Marie-Andrée Lamontagne, bonsoir à tous, merci d'être là. Quant aux retardataires, nous aurons la bonté de les accueillir quand ils arriveront. Je crois que nous allons passer un excellent moment ce soir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans l'air qui va faire en sorte que nous allons repartir dans une heure et demie, donc dans un siècle. Le temps va passer très rapidement. D'abord de poésie, parce qu'on est ici ce soir pour parler de poésie. Je vais vous présenter dans un instant notre invité, pour ceux qui ignoraient qui elle est, mais je crois que vous savez qui elle est, puisque si vous êtes ici ce soir, c'est bien évidemment parce que Joséphine Bacon donc, vous a attiré par sa poésie. Mais donc, avant d'aller plus loin, il faut savoir que la rencontre de ce soir s'inscrit dans une suite de rencontres. Alors, suite de rencontres, c'est à l'initiative du Festival Métropolis Bleu. Le Festival Métropolis Bleu, c'est un festival littéraire qui a été créé, qui a peut-être maintenant une quinzaine d'années d'existence, si je ne me trompe pas, et donc qui a lieu au printemps. Et il s'agit, comme la littérature ne connaît pas de saison, et que les écrivains non plus ne connaissent pas de saison, le festival, à travers sa fondation, la Fondation Métropolis Bleu, qui est un organisme à but non lucratif fondé en juin 1997, eh bien, a mis sur pied toute une série d'activités, et les rencontres de ce soir s'inscrivent dans ces activités. Alors, la Fondation est née du désir de réunir les écrivains et les lecteurs de différents pays. Vous allez voir que c'est beaucoup plus que de simples entretiens ou des rencontres qu'elle peut organiser en librairie, mais il y a aussi de ça. Elle fait tomber les barrières linguistiques et cela afin de favoriser les échanges, encore une fois, autour de la littérature. Alors, la Fondation organise au printemps, notez les dates parce que la prochaine édition du festival, ça s'en vient, vous en entendrez parler de toute façon, c'est du 21 au 25 avril 2010. Et puis donc elle organise au printemps le Festival littéraire international Métropolis Bleu, et tout au long de l'année, comme je le disais, il y a divers événements dont la série littéraire internationale Métropolis Bleu, donc c'est son nom, qui présente des événements, mais pas seulement à Montréal, mais à New York, à Toronto, à Shanghai, à Guadalajara. La Fondation propose aussi plusieurs programmes éducatifs et fait la promotion de la littérature et de l'alphabétisation auprès des jeunes et des moins jeunes. Parce que goûter la littérature, ça passe d'abord par goûter les lettres, savoir maîtriser la langue. Et donc, l'alphabétisation est un enjeu dans plusieurs milieux. Et donc, la Fondation intervient. Alors, ce soir, la série littéraire Métropolis présente la poète, cinéaste, conteuse. Je vais vous la présenter tout à l'heure, dans un instant, en détail, avec tous les égards qu'il faut. Joséphine Bacon. Il y a bien sûr un exemplaire de son recueil de poèmes qui nous réunit ici ce soir. Donc, ils sont là, les exemplaires. La formule, là aussi, j'y reviendrai. Je veux dire, d'abord, pour le moment, que la série littéraire internationale Métropolis Bleu bénéficie du soutien du Conseil des arts du Canada. C'est important de mentionner nos commanditaires. Et puis, bien sûr, nous remercions chaleureusement la librairie Olivieri, Yvon, Isabelle, Rina, toute l'équipe d'Olivieri, de libraire, pour son accueil chaleureux. Deux fois le mot chaleureux, mais c'est encore trop peu par rapport à l'accueil qui nous est réservé ici. Et puis les éditions Mémoire d'Encrier, parce que ce recueil de Joséphine Bacon est publié aux éditions Mémoire d'Encrier. Et puis également Radio Spirale. Donc Radio Spirale, qui est un prolongement de la revue Spirale, excellente revue, qui diffuse cet entretien. Donc nous sommes en ce moment enregistrés et ce sera diffusé à la radio Internet. Donc ça permet de garder une trace de la rencontre. Alors, quelle forme va prendre cette rencontre? Eh bien, pour résumer, moi, je dirais conversation. Conversation entre nous deux.
Rencontre
avec le public, parce que vous serez invités à participer, d'abord en nous écoutant attentivement, en écoutant Joséphine Bacon. Et puis aussi, ça sera entremêlé de lecture. Vous allez nous lire vos poèmes en français et puis un peu en inou. Moi, je veux faire des progrès en inou ce soir. Vous allez m'apprendre quelques mots.
Je vais vous coacher.
Oui, très bien, très bien. Et puis donc, à la fin, il y a un micro qui est là. donc vous, membres du public, vous serez invités. Ce n'est pas forcément des questions, hein, ça peut être des commentaires, des remarques, des impressions. Enfin, nous sommes entre nous, alors profitons-en. Et puis, séance de dédicace à la fin. Ceux qui voudraient faire dédicacer leur exemplaire, ben, il faut profiter de la présence de Joséphine Bacon. Alors, Joséphine Bacon, je vais vous présenter un peu comme il faut. Vous êtes Innu, on disait autrefois montagnais, je crois.
Oui.
Alors, Innu, vous êtes originaire de Betsiamit sur la Côte-Nord et vous vivez à Montréal. Alors, vous avez fait beaucoup de choses. Je vais faire un bref panorama. Vous êtes d'abord réalisatrice de films documentaires. Le Petit Grand Européen, ça c'était à l'ONF en 1996. Vous voulez donner le nom Innu de ce film?
Chemastrohis.
Voilà. Et qui raconte comment un Belge au siècle avant-dernier, donc c'est en 1896, Johan Betts, qui s'appelle, a choisi de venir s'établir sur la côte nord où il a vécu, mais vraiment en très grande bonne entente, en intelligence, je dirais même aussi, avec les Inuits. Il a d'ailleurs épousé une métisse, vous racontez tout ça dans le film, dont il a eu plusieurs enfants. Et puis en tant que cinéaste, ben, vous avez eu l'idée de demander à quelqu'un, donc à un Belge qui habitait le château où était, parce que Johan Betts vivait venait d'un milieu aisé, là, d'un milieu aristocratique.
C'était un châtelain qui habitait à Biurch, et puis il habitait le château des Torelles.
Et donc, Johan Betts est venu s'établir sur la côte. Non, on va résumer une histoire qui est à la fois très belle et un peu plus complexe que le résumé qu'on pourra en donner. Mais tout ça, c'est dans le film. Vous pouvez aller à la ciné-robothèque de l'ONF, comme je l'ai fait, et puis vous asseoir confortablement et puis regarder ce film. C'est vraiment très, très instructif. Alors, il y a le chef cuisinier belge va préparer un grand festin pour les descendants de Johan Betts. Ça se passait il y a quelques années, puisque le film, c'est 1986. Alors, ce n'est pas le seul film que vous avez fait. Vous avez aussi participé, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est de l'histoire ancienne. Ouais. C'était en 1978, c'était votre premier film. Vous avez collaboré donc à ce film qui s'appelle Les sorties du castor en Inuit.
Watan.
Et qui fait parler donc des anciens chasseurs Inuits sur leur mode de vie d'avant.
Et puis, d'ailleurs, ils déplorent qu'aujourd'hui, on ne sait plus marcher.
Ah oui, les jeunes, ils disent qu'ils se fatiguent vite, ils ne savent plus marcher. Enfin, c'est aussi très, très intéressant. Alors, sur leur mode de vie d'avant la sédentarisation qui est survenue, on pourrait dire, au tournant des années 50, pas seulement d'ailleurs pour les Inuits, mais pour plusieurs peuples autochtones.
Nomades,
oui. Ouais. Donc, le cinéma documentaire, la musique. Mm-hmm. Vous avez écrit des paroles de certaines chansons de Chloé Sainte-Marie.
Oui. J'ai écrit « Assoir mon choix ». Fils de guerrier.
Ouais, donc c'est une collaboration très, très, très,
très, très proche.
Très proche, très étroite. L'anthropologie aussi, puisque vous avez recueilli plusieurs récits inuits et travaillé avec des anthropologues.
Oui, avec Sylvie Vincent, qui est quelque part, là.
Ah oui, bon, ben, oui. Nous saluons Sylvie Vincent. Et puis, donc, l'anthropologie. Et puis maintenant, la poésie, avec ce premier recueil, comme je le disais, « Bâton à message », donc en langue inoue. Chez l'éditeur Mémoire d'Encrier. D'ailleurs, très belle facture pour l'ouvrage. Et puis, très beau poème. Vous en aurez un avant-goût pour ceux qui n'auraient pas eu l'appétit ou la curiosité ou simplement l'occasion de lire déjà les poèmes. Donc, les bâtons à message, pour ceux qui l'ignoraient, ce sont des repères laissés par les chasseurs pour s'orienter.
Pour s'orienter et pour dire s'il y a abondance ou famine.
De gibier, vous voulez dire?
Très bien. Comme on était des nomades, on était toujours à la recherche de notre nourriture.
Et donc, c'est un peu comme les Inukshuk chez les Inuits, on pourrait dire?
Les Inukshuk veulent dire on est passé par là.
Ah oui, c'est ça, c'est une trace aussi, mais ça a une autre signification.
Mais peut-être que, comme je suis pas vraiment très connaisseuse de la culture inuit, peut-être que ça doit se ressembler, j'imagine.
Oui. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que quel que soit l'élément, il y a une chaîne de solidarité.
Absolument.
Qui s'inscrit à la fois matériellement dans le paysage et puis en littérature, on pourrait dire que cette chaîne de solidarité, elle trouve en partie son pendant dans la mémoire.
Dans la mémoire et dans l'histoire aussi. C'est parce que les Tsnoastagan parlent, les Inukshuk aussi parlent. Ils laissent des paroles qui ne sont pas nécessairement écrites, mais qui sont dites.
Mais ce ne sont pas des objets muets, donc.
Non, pas du tout.
Et donc, votre recueil de poèmes, il est traversé de ces deux grands axes aussi, c'est-à-dire solidarité et mémoire. Enfin, ce sont deux thèmes principaux. D'abord, je vais vous dire le premier mot en Inuit que j'ai appris, « kwei ».
Kwei,
ça veut dire bonjour, c'est ça? Ah, je suis. Je le connaissais un peu avant, mais on a échangé des emails et puis elle commençait avec Kwei. J'étais toute contente de lui répondre avec Kwei. Alors, on va parler de poésie, si vous voulez bien, dans un premier temps. Et d'abord, on va parler que de poésie, on pourrait dire, parce que la poésie, j'ai l'impression qu'elle émane de chacun de vos pores, qu'elle est intimement liée à votre personne, à ce que vous êtes, n'est-ce pas?
Ben, je sais pas trop. J'ai jamais pensé que j'étais poète. Je ne faisais qu'écrire. J'écrivais
ce que vous aviez envie d'écrire.
Ce que j'avais envie d'écrire et ce que j'avais retenu des anciens, de mes grands-pères, de mes grands-mères. Tout ce qu'ils me disaient m'amenait à écrire quelque chose dans ma langue, soit en français ou vice-versa.
Mais tout de même, on sait que traditionnellement, enfin, vous êtes-vous posé la question du genre? Parce que la poésie, c'est un genre littéraire. Un genre traditionnel dans la culture autochtone, c'est aussi le conte, les récits. C'était pas le récit ni le conte qui vous intéressaient? Si, mais pas de cette façon-là. Et là, c'était la poésie?
Mais j'ai jamais pensé que j'écrivais de la poésie. Je ne faisais qu'écrire. Jusqu'à temps que j'ai dit peut-être que c'est de la poésie. Parce que dans certains mots, en Inuaimun, un seul mot est un vers.
Oui.
Oui, quand tu le traduis en français, évidemment. Alors j'ai dit, on n'est peut-être que des poètes quand on raconte.
C'était quoi votre vision de la poésie avant d'en écrire et quelle est votre vision de la poésie maintenant que vous en avez, que vous pratiquez le genre?
Avant de croire que j'écrivais de la poésie, je me disais que la poésie, tu sais, je trouvais ça plate. Tu sais?
Vous ne trouviez pas ça beau? Vous n'aviez pas trouvé vos poèmes, au fond. Vous n'aviez pas trouvé...
Il y a des poètes mais je ne comprenais pas. C'était dit avec des mots tellement compliqués. Tu sais, qu'il fallait que je fouille dans le dictionnaire pour comprendre. Et puis après ça, tu sais, comme quand tu vas à l'école. Tu sais, quand j'allais à l'école, du moins au pensionnat, on apprenait le principal, le subordonné, complément d'objet direct, indirect. Alors, j'ai dit, pourquoi pas tout simplement écrire ce qu'on ressent? Alors, j'ai écrit ce que je ressentais, et puis les gens lui ont dit que c'était de la poésie.
Et donc, vous avez approuvé, vous avez dit finalement...
C'est pas si plate que ça.
Faites-vous une différence entre poésie et parole? Elles paraissent ici, dans ce recueil, indissociables, comme si toute parole était poésie. Or, nous savons que ce n'est pas vrai. Dans le monde de tous les jours, toute parole n'est pas poésie. Il y a aussi la grammaire, il y a aussi le monde est prosaïque, il est terre à terre, il est souvent ennuyeux, il est parfois violent, enfin, il y a toutes les... Or, votre recueil nous convainc de la force de la parole et qu'elle est poésie. Alors, faites-vous une différence entre les deux?
Je me suis jamais posé la question, vraiment pas là, parce que je me dis que quand tu écris ce que tu ressens, et puis quand tu retournes dans ta mémoire, et puis tu revois ton grand-père te raconter, et puis tu vois toutes les images qui t'inspirent, une parole, un mot, alors... J'essayais pas d'expliquer rien, je faisais juste le voir, après ça, l'écrire, parce que je suis allée à l'école maintenant comme tout le monde, sinon peut-être que si j'étais restée dans la tradition orale, peut-être que j'aurais juste parlé. et non pas écrire.
Oui, Joséphine Bacon, vous avez dit je le vois d'abord. Donc la poésie, enfin les poèmes avant, ce sont des images que vous avez.
Mais absolument, c'est des images avant de les écrire.
Et avant d'être des sons.
C'est des images et des sons. C'est d'abord des images, puis dans les images il y a les sons et puis il y a le rythme aussi. Après ça, ça devient des paroles écrites. Un texte, je ne sais pas, un mot qui t'inspire, tout plein de choses.
Alors, les poèmes, ils sont de différentes longueurs. On va en entendre un dans un instant. Ils sont de différentes longueurs. Les vers sont tantôt brefs, tantôt se déploient plus longuement. Il y a deux brefs poèmes sur le silence. Page 1, vous vous souvenez, page 54 et 56.
54, j'y suis.
Alors, vous pouvez peut-être lire celui de, si vous voulez bien, celui de 56, puis après je vous poserai une question sur le silence. Et comme ils sont brefs, ce serait bien de les lire aussi en langue innue après ou avant, comme vous voulez. D'abord, ils sont écrits d'abord en français ou en innue? Non, en innue.
En innue d'abord.
Oui, très bien. Alors, lisez d'abord en innue, si vous voulez bien.
Eka emiani. Nuiten eimuna. Eka emiani. Katsent muna napete. Eka emiani. Natsente nuten watamui. Silence. J'entends des paroles. Silence. Les mensonges tonnent dans ma tête. Silence, tu m'as tout dit.
C'est magnifique, non? Qu'est-ce qu'on entend quand on entend le silence ou quand on fait silence?
Quand on fait silence, on entend tellement mieux. On entend le rythme de notre cœur. On entend des pas sur la neige en raquette. On entend l'arbre qui nous parle, on entend notre âme.
Donc c'est, au fond, sa propre voix et la voix des autres peut faire écran, faire obstacle à la qualité de la vie, à la qualité du silence qu'il s'agit d'entendre.
Moi, je dis, il faut savoir écouter le silence pour entendre.
Est-ce que ce soir, le silence peut s'entendre, là, en ce moment? L'entendez-vous dans le public?
J'entends tout.
Nous entendons aussi la rumeur du bistrot derrière. Mais en fait, on ne veut pas l'entendre. On peut très bien choisir aussi, non, d'entendre.
On peut entendre ce qu'on veut. Hein?
Oui. Alors, l'autre poème, page 54, sur le silence. On n'en a pas fini avec le silence, parce que je crois que c'est un...
Mon Dieu, on va finir par ne plus parler.
Et alors? Il s'agira de lire. Non, tout de même, on a des... Alors, l'autre poème, page 54.
D'accord.
Si vous voulez, c'est très bref, là aussi.
Egatsetok. Nakanoenamokon. Nanegadigon. Tiosan omni. Silence. Je suis adoptée. Je suis maltraitée. Je suis orpheline.
Alors, très bref, lapidaire, mais en même temps lourde, de toute une histoire, on pourrait dire, lourde des mots, des significations, des sentiments. Je suis silence, je suis adoptée, je suis maltraitée. Dans la postface du recueil, Laure Morali évoque brièvement votre condition d'orpheline de mère, hein, c'est ça, ouais. D'orpheline de mère à 3 ans, et votre éducation au pensionnat, vous en avez parlé il y a un instant, d'où vous êtes sortie à 19 ans, mais non pas acculturée, puisque vous avez gardé très vive votre identité innue, la langue notamment.
Non, je suis sortie acculturée, quand même, étant donné que je n'ai pas entendu les aînés me racontaient les atnogan, les légendes. J'ai retrouvé ma culture en travaillant avec Sylvie Vincent, Rémi Savard, José Mayotte. J'ai retrouvé tout ça parce que elles ont eu la gentillesse de me ramener à mon peuple.
Mais donc, il peut y avoir eu une interruption comme ça pendant de 3 ans à 19 ans?
Pourquoi pas?
Oui, mais alors, comment, quel chemin avez-vous dû parcourir à rebours, pourrait-on dire?
Je n'ai pas parcouru à rebours. Je suis allée grâce aux anthropologues qui m'ont permis de retrouver. Ils avaient besoin de quelqu'un. Les anthropologues, Sylvie, José, Makainé, Rémi, ils travaillaient chez les Innus. Et puis, ils avaient besoin de quelqu'un pour faire la traduction de leurs recherches. Et en traduisant toutes leurs recherches, leurs cueillettes qu'ils faisaient sur le terrain des Innus, j'ai tout retrouvé, tout, mais absolument tout.
Mais la langue, vous ne l'aviez pas perdue.
Non. Mais je parle mieux maintenant que je parlais quand je suis sortie du pensionnat. Parce que les anciens, eux autres, ils parlent l'innu quand ils vivaient encore nomades. Donc, j'ai dû réapprendre les termes de l'intérieur des terres. À ça, qu'est-ce qu'il voulait dire? Parce que j'avais qu'une langue sédentaire dans ma langue. Alors, tu sais, je parlais pas la langue. Tu sais, quand ils vivaient encore dans l'intérieur des terres, avec les lacs, avec les rivières, avec les poissons, avec les animaux et les arbres, et puis tout l'environnement, j'ai dû. Tu sais, c'est parce que j'ai écouté les vieux que j'ai tout réappris. Et puis c'est ça qui a créé la poésie que finalement j'ai écrite.
Oui, parce que la langue est... Alors tout de même, vous étiez acculturée, vous l'avez dit, mais si vous aviez la langue, même imparfaitement, vous étiez tout de même ancrée dans votre culture.
Oh mais mon Dieu, ça, si vous saviez comment j'étais... À quel point... Quand j'ai compris que j'étais un Innu, ça a été extraordinaire parce qu'au pensionnat, on avait des films de cow-boys et d'Indiens, c'est sûr, mais on ne voulait jamais être les Indiens, non? On était tous là. T'sais. Quand on est arrivé au pensionnat en 1952, personne d'entre nous ne parlait français et puis on n'avait presque pas côtoyé des gens d'une autre langue. Alors, tu sais, on savait que eux autres, c'était des Kakusehad, des Mestorohot, ou qu'importe comment on les désignait. Mais personne nous avait dit qu'on était des Indiens. Alors, tu sais, on était juste nous. On était juste que nous étions. On ne s'est jamais dit, ben là, moi, je suis une Indienne, puis la religieuse, ben elle, c'est une blanche. Tout ce qu'on savait, c'est que c'était être soi à tous les jours. Puis alors, quand on regardait les films d'Indiens, de cow-boys, c'est sûr qu'on ne voulait pas être des Indiens, on perdait tout le temps. Hein? mais je me souviens, quand je me suis rendu compte, tu sais, j'ai dit, je suis un Indien. Hein?
Et vous étiez fière?
Ah ben écoute, absolument. God, hein, j'ai dit, même si je perds tout le temps, il suffit que changer un peu, dire autre chose, dire qu'on est là, et puis qu'on a des choses à dire, et puis qu'on est un peuple fort.
Et ça se passait quand? Vous aviez quel âge à ce moment-là?
Oh mon Dieu, tu sais...
Vous n'étiez plus au pensionnat?
Je n'étais plus au pensionnat.
Donc j'étais jeune femme.
Mais c'est surtout... quand je suis arrivée à Montréal, j'étais plus ou moins itinérante. Et puis, quand je suis arrivée dans l'est de Montréal, tu sais, Louis-Aymon, tu sais, puis tranquillement, on s'est ramassé. J'étais avec une autre Indienne qui était, elle était Wabanaki. Puis elle se débrouillait très, très bien en français. Et puis, en anglais, moi, je baragouinais le français dans ces années-là. Et puis, là, on se déplaçait toujours. Tout le temps vers l'ouest. Puis rendu dans l'ouest de Montréal, mais il y avait plein d'Indiens. God. Si vous saviez à quel point... Oh, c'était génial. C'était, j'ai appris, je pense, l'anglais en 3 mois, parce que comme ils étaient de différentes nations, mais qu'ils étaient tous anglophones, alors j'ai pu apprendre le français, pourquoi pas l'anglais.
Mais donc, avec votre conscience retrouvée de votre identité indienne, est-ce que vous avez, inou, parce qu'il faut quand même raffiner, là, il n'y a pas une culture indienne ou amérindienne, il y a plusieurs cultures selon les nations. Est-ce que, avec cette conscience retrouvée, vous avez aussi, et ça venait avec, pris conscience, éprouvé un sentiment d'étrangeté par rapport à la culture des Blancs?
Ben non, on avait été élevé en français. On avait été élevé en français, puis on étudiait tout. Je ne sais pas comment dire. Comme je suis arrivée au pensionnat, j'avais 5 ans, je suis sortie à 19 ans. Mais j'étais toujours avec des Indiens, toujours, toujours. Donc, c'est rendu. Quand j'ai quitté le pensionnat, que je suis devenue consciente qu'il y avait d'autres cultures que la nôtre, malgré, tu sais, qu'on a été élevés quand même par des religieuses, des frères et des prêtres. Mm. Tu sais, parce qu'au pensionnat indien où j'étais, là, il y avait la réserve de Maliotenam à côté, mais entre nous, c'était que des Indiens. Alors, c'est une fois dans la grande... Ben, en tout cas, tu sais, quand je suis arrivée à Montréal ou à Ottawa ou à Québec la première fois, tu sais, tout ce que je voyais, c'est tout ce que j'avais vu dans les films. Parce que c'est ça, ça devenait réalité.
Ce que vous aviez vu dans les films de ces grandes villes, c'est ça. C'était la connaissance que vous aviez de ces villes.
Ouais.
Et donc, la réalité correspondait aux films ou c'était aussi comme dans les films de cow-boys et d'indiens, il y avait un écart?
Non, mais il n'y avait pas que les cow-boys et les indiens qu'on regardait comme films. Parce qu'une fois que la télévision il est sortie, ben là, ils nous ont installé la télévision. Puis là, il y avait... Des émissions, tu sais, qui racontaient plus, comme des téléromans qui racontaient plus la vie, tu sais, de façon, comment je pourrais dire. Donc, tranquillement, j'ai compris qu'il y avait, tu sais, qu'il y avait autre chose, qu'il y avait une autre façon de vivre que de vivre dans un pensionnat où tout était bien réglé. Quand je suis arrivée à Montréal, ben, je l'ai vécu.
Revenons, c'est-à-dire on n'a pas quitté le sujet, mais je voudrais revenir sur la question de votre identité inoue. Y a-t-il une façon inoue de voir le monde?
Y a-t-il une façon?
Et si oui, quelle est-elle?
S'il y a une façon inoue de voir le monde, c'est de voir l'espace, en tout cas. C'est de voir... des rivières telles qu'elles ont toujours été, c'est de voir les arbres tels qu'ils devraient l'être et non pas rasés. C'est juste d'avoir des yeux ouverts et puis d'apprécier à tous les jours ce que la terre te donne. Ses médicaments, sa nourriture, elle te donne l'eau, elle te donne tout.
Et donc, même si la terre est maltraitée, la pensée, la vision inoue du monde est capable de voir la Terre dans toute sa richesse, passée, présente et à venir, on pourrait dire.
Elle était plus belle avant les bulldozers. Elle était plus belle avant les barrages. Elle était plus belle avant les coupes à blanc.
Et elle sera peut-être plus belle si certaines idées font leur chemin.
Elle est encore belle, mais on la fait souffrir.
Oui. Le plus grand malheur de la sédentarisation forcée, on peut dire, des peuples autochtones, n'est-il pas de les avoir condamnés en quelque sorte à la nostalgie?
Mon Dieu, c'est pas de la nostalgie, c'est quand tu te fermes les yeux. Tu sais, la mémoire, il est fort. Hein? Mm. Et c'est la mémoire, La mémoire fait que tu ne détruis pas ce que tu as vu, ce que tu vois et ce que tu pourrais voir plus tard.
Non, je n'appelle pas nostalgie cette vision, par exemple, de l'arbre avec toutes ses feuilles, l'arbre qui n'est pas coupé, ou de la rivière avec toutes...
Mais ça existe
oui,
encore.
Oui, bien sûr, bien sûr. Hein? Alors, pour moi, ça, ce n'est pas la nostalgie. Quand j'appelle nostalgie, c'est par exemple dans le film la sortie du Castor, on en a parlé tout à l'heure, les anciens qui disent « Ah, les jeunes d'aujourd'hui ne courent plus ». Vous me direz, tous les anciens peuvent dire le même langage, qu'ils soient indiens ou blancs, mais ils ne courent... Peut-être que c'est exacerbé davantage chez une culture qui se sait menacée et qui est en train de...
Quand ils disent qu'on ne sait plus marcher, oui. C'est qu'on n'est plus nomade.
Oui, mais donc il y a une nostalgie.
Parce qu'on est devenu sédentaire.
Oui.
Parce qu'il y a eu la création des réserves. C'est pour ça que les anciens disent qu'on ne sait plus marcher, mais dans le temps qu'on était nomade, on marchait, tu pouvais pas ne pas marcher
plusieurs kilomètres par jour.
Bien sûr.
Est-ce que ce n'est pas une forme de nostalgie que de penser à ce temps d'avant la sédentarisation, ce temps du nomadisme qui est vu comme une sorte
d'âge
d'or? Mais
quand tu prends quelqu'un qui a toujours marché, qui a parcouru son territoire, et puis du jour au lendemain, tu l'installes dans une maison.
Oui, bien sûr. Il souffre.
Il souffre, il ne marche plus.
Oui.
Il ne marche plus. C'est triste.
Oui. Les anciens aujourd'hui, parce que les générations se succèdent, est-ce que vous croyez que si on réunissait des anciens et nous, vous l'avez sûrement fait, hier, avant-hier, ils tiendraient un langage différent de ceux que vous avez réunis, c'était en 78 avec ce film?
Watan?
Oui.
Oh mon Dieu.
Autrement dit, la nouvelle génération d'anciens, quelle mémoire!
Ils diraient la même chose. Tant qu'on va rester sédentaire, on ne saura pas marcher.
Donc la mémoire est la même.
La mémoire est la même. Si tu ne parcours pas ton territoire, si tu ne bouges pas, tu ne sais pas marcher.
Mais est-ce que ça suppose de vouloir retourner à un mode de vie nomade? Est-ce que c'est faisable?
Mon Dieu, c'est... plus maintenant.
Non.
Je pense pas. Ce serait vraiment... si je disais oui, ce serait un mensonge.
Oui. Hein? Oui. Dans le petit grand européen, il y a une scène où l'on voit le prêtre, vêtu d'un manteau richement orné de motifs amérindiens. C'est magnifique.
En peau de caribou, d'ailleurs.
Ah bon, qui lui tient lieu de chasuble, je dirais. Mm-hmm. Il est en train de bénir les canaux. Dans Bâton à message, il y a des allusions au choc des religions, en l'occurrence au catholicisme et à la spiritualité inoue. Par exemple, page 80... Alors, si vous allez page 80, vous distinguez, alors là, je vais évidemment mal le prononcer, mais vous me corrigerez, le Tshishe Manitou des Micelles, ça, c'est l'expression que vous utilisez. Et puis, on apprend dans le lexique, il y a un lexique à la fin du recueil, donc on peut se repérer pour les définitions. Et donc, on apprend qu'il s'agit de Dieu ou le Grand Esprit. Hein? C'est
ouais,
le nom de...
Parce que le Tshishe Manitou, qui est le Grand Esprit, tu vois, le Grand Esprit, on l'a traduit quand on a su qu'il y avait un Dieu, mais on lui a donné le même nom.
Oui.
Parce que Dieu est supposé être un grand esprit.
Oui, alors...
Au même titre que notre grand esprit.
Oui, mais est-ce exactement la même...
Sauf que le nôtre, là, il ne nous fait pas peur.
Oui, ben c'est ça, c'est ce que j'allais demander. C'est pas tout à fait la même réalité derrière les deux mots, parce que dans le même poème, alors il y a le Tshishe Manitou des Micelles, lui il fait peur, hein, c'est ça.
Ben oui,
et puis
sûr.
Un vers après, mais c'est-à-dire non, il ferait moins peur que l'autre vers après où il est écrit Dieu a fait de moi son esclave.
Ben oui,
et donc là il y a un Dieu, et puis avant il y avait un Tshishe Manitou des Micelles. Est-ce que c'est le même?
Le Tshishe Manitou, c'est parce que. Le Tshishe Manitou des Micelles, c'est parce que tu vas à la messe, parce que dans ces années-là, tu sais, quand tu allais à la messe, tu avais un livre qu'on appelait le Micelle.
Oui, oui.
Ouais.
Mais donc,
c'est le même Dieu.
C'est le même Dieu. Qui fait peur.
Qui fait peur, oui.
Et le Manitou, le grand esprit, enfin, chez les Innus, lui, ce n'est pas une figure effrayante.
Mais non, pas du tout.
C'est une figure bienveillante.
Ben, bienveillante. Il est là, le grand esprit, il est là pour te protéger, pour te guider. Tu sais, ben, puis... Non, il fait pas peur du tout.
Alors, du coup, ça a dû être un choc quand même de mélanger ces deux dieux dans l'esprit des...
Moi, quand j'étais enfant, mes parents étaient déjà des catholiques.
Oui, c'est ça, ils étaient...
Alors, j'ai grandi, j'ai été baptisée comme eux.
Oui. Et comment s'est fait le mélange, on pourrait dire, on a parlé de syncrétisme.
Mon Dieu, les Innus, là, ils ont embarqué... Pieds joints. OK.
Mais mes mains jointes, ils priaient aussi.
dans la religion catholique, ça...
Et pourquoi?
Mais j'imagine parce que la messe, c'était comme quelque chose de rituel. C'est un peu
Mais c'est un rite,
C'est comme magique un peu... Tu voyais le prêtre qui faisait des simagrées en avant. J'imagine qu'ils sont fait embarquer par... parce que nous aussi, on avait nos rituels.
Oui.
Mais lui, tu vois, c'était encore plus impressionnant, ces trucs.
Oui. Hein? Mais donc, on a pu faire cohabiter les deux rituels, on pourrait dire. Oui, plusieurs rituels, les rituels des Blancs et les rituels
au début, j'imagine que quand les missionnaires sont arrivés, j'imagine que les deux ont pu cohabiter jusqu'à temps qu'il ait... qui tue notre cemento à nous,
ouais.
Donc, avec tout ce qui vient avec.
Ouais. Chez les catholiques canadiens-français, maintenant, dans les générations présentes, les jeunes et puis les générations de 30 ans, 40 ans ont pris une très grande distance par rapport au catholicisme de l'époque. Est-ce que c'est le cas aussi chez les Innus par rapport à la spiritualité traditionnelle?
Les Innus, du moins les vieux, là, pour eux, c'est encore très important pour le cemento des micelles. Mais les jeunes, aujourd'hui, c'est plus aussi important.
Chez les jeunes
ou avant d'être vieux, là, ouais. Des adultes.
Oui, mais qu'est-ce qui n'est plus important? Le catholicisme, la religion?
Le catholicisme, il est beaucoup moins important parce qu'on, puis tranquillement, on veut retourner dans nos croyances. Païenne, comme diraient les prêtres.
Oui, non, on ne dit plus ça maintenant, aujourd'hui, païenne. Mais donc, on retourne à des croyances. Les croyances sont importantes.
Mais bien sûr, parce qu'ils sont tout simples, les nôtres. Il n'y a pas personne qui te fait peur. Tu ne t'en vas pas en enfer. Tu ne t'en vas pas faire un sweat lodge avant d'arriver au ciel. Il y a tellement de chemin à faire avant d'arriver à leur paradis. Tandis que nous autres, on fait juste se purifier. Puis c'est bien. Et puis on ne manque pas de respect aux animaux, ni à la terre, ni aux aînés.
Ouais. Donc c'est aussi un code de vie.
C'est un code de vivre. Non, c'est une façon de vivre.
C'est une façon d'être.
Oui, et d'être.
Oui. Ouais. Vous voulez nous lire, vous avez préparé quelques poèmes, alors choisissez ce que vous pourriez nous lire.
J'aimerais lire pour toutes les femmes qui meurent, qui nous quittent à cause du cancer du sein, parce que je sais que Alice a perdu une amie cette nuit. Moi, je l'ai écrit pour mon amie qui m'a quittée de la même façon, qui dit « Tant de lunes, nouvelles, pleines, sont passées. Notre amitié est devenue absente. J'en ai fait mon amie. Aujourd'hui, tu es là, forte, fière, narguant la mort. Qui pourrait croire qu'un trop tard s'échappe de mon cœur? Mais non, car la mémoire te garde à jamais dans la brunante de ma vie. Dans mes nuits de rêve, je te verrai atteindre l'horizon sans moi.
Que signifie la mort dans la spiritualité inoue ?
Un départ.
Un départ et un passage ou un départ ?
Un départ. Tu t'en vas. Tu quittes.
Et ceux qui restent se souviennent.
Toujours. Mais oui, te gardent dans leur mémoire jusqu'à temps que tu les rejoignes.
Donc le départ, tout le monde va connaître le départ, forcément.
Oui, ouais. Oui.
Mais on peut l'apprivoiser peut-être par des mots, par des poèmes, par des... Est-ce que la poésie peut faire quelque chose contre l'inévitable, contre la douleur, par exemple, de perdre un ami, une amie ?
Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est... Je pense que... Les départs, là, tu sais que le départ existe sous toutes les formes. Un départ est toujours triste, à part quand c'est un départ où un départ peut te soulager aussi.
Oui, parce que là, on peut choisir de s'en aller.
Je ne parle pas nécessairement de la mort,
non,
quand
non,
je
bien
parle
sûr.
De départ.
De rupture ou de s'éloigner.
Un départ reste toujours bye. Hein? Oh, yamé.
Ça, c'est un vers, hein? Ouais. Quasiment, juste un mot. Ouais. Je l'ai dit, vous êtes poète, profondément poète. Dans la poésie de Gaston Miron, par exemple,
oui.
Il y a quelque chose de canadien-français, mais aussi de propre à Gaston Miron. De même, on pourrait prendre des exemples d'autres poètes dans la poésie de François Villon ou de Rutebeuf, pour prendre des poètes français du Moyen-Âge. Il y a quelque chose de français, mais aussi propre à ces poètes. Hein, c'est ce qu'on appelle la voix du poète. Mm-hmm. De même, qu'est-ce qui est inoue dans votre poésie, et qu'est-ce qui est propre à vous, Joséphine Bacon, poète?
Je sais pas. Mon, tu vous posais des drôles de questions.
Non, mais on n'est pas obligé d'y répondre. On peut juste essayer de réagir et puis voir où ça va nous mener.
Mon Dieu, je sais pas. Je sais vraiment pas quoi répondre.
Ouais, parce que si j'ai bien compris, puis on l'a vu, c'est instinctif, c'est beaucoup plus instinctif. Là, je vous demande de raisonner. Au fond, vous ne voulez pas raisonner. Vous ne pouvez pas raisonner sur la poésie.
Ben non, je ne peux pas raisonner sur la poésie parce que... Non, je ne peux pas. Je ne sais même pas si je comprends la poésie. Hein? Et un jour, je pourrais être assis là, tout d'un coup, quelque chose... Tu sais, quelque chose me vient, puis je l'écrirai, pourquoi pas. Et puis quelqu'un dirait, c'est un beau poème. Mais j'ai pas... l'instant où je l'écris, je me dis pas, là, Bibitte, t'écris un poème.
Bibitte, c'est votre surnom, oui, que vous assumez, oui.
C'est ça, j'ai de la misère.
Oui, non, mais c'est très bien. Mais alors, est-ce que ça veut dire que, tout de même, il y a une fonction critique qui est attendue un peu du poète, ne serait-ce que par rapport à ces poèmes? Vous avez choisi des poèmes pour les mettre dans ce recueil, ou est-ce que vous avez mis tous les poèmes que vous avez pu écrire? Alors,
mais c'est tout ce que j'ai écrit n'importe où, dans les feuilles de bingo, dans les paquets de cigarettes. Tout est là-dedans.
Tout est là.
Oui.
Donc, il n'y a pas eu de choix, ni de vous, ni de votre éditeur. C'est à partir du moment où
c'était tout des ramassis de quelque chose que j'ai écrit, soit dans un restaurant, ou pendant le bingo, ou pendant un bon souper, tout d'un coup... Ça arrivait, alors je l'écrivais.
Ah oui. En fait, on pourrait dire que le tri, le choix s'est fait bien avant, en amont, à partir du moment où l'image, comme vous avez dit tout à l'heure, vous la voyez, et puis que vous entendez les sons, puis que vous traduisez en mots, il y a déjà un choix qui a été fait. Et à partir de là, ce choix est digne d'être retenu. On pourrait dire.
Un choix, c'est toujours choisir. Moi, je n'ai pas fait le choix. Je l'ai juste écrit. Ou je l'ai juste. Ou c'est juste venu dans ma tête.
Oui, mais vous parlez de vous comme étant quelqu'un qui reçoit les poèmes presque sous la dictée. Comme si les poèmes étaient là, derrière nous, non, et attendaient d'entrer dans votre cerveau.
Non, hein. C'est juste tout d'un coup, ils viennent tout d'un coup. Tu vois, je ne suis pas là, tu sais, pendant une semaine, je me dis, je vais écrire une dizaine de poèmes, là, puis partir sur un tel thème. Non, je ne le fais pas. Tout d'un coup, je pense à quelque chose, je l'écris. Puis peut-être deux jours plus tard, autre chose va venir, ou peut-être dans un mois. Mais je ne m'assois pas là à dire, l'autre, je suis un poète, je vais écrire ci, puis ça.
Et là, je vais faire un recueil.
Un recueil. Mais tu vois, le recueil, c'est une idée de Laure Morali.
Mm. Oui. Qui, elle avait lu les bouts de papier. Hein, c'est ça?
Qui les a surtout conservés.
Ah, parce que vous ne conserviez pas, vous?
Ben oui, ben sinon, ce serait peut-être dans les poubelles.
Donc, vous écrivez, puis après, vous désintéressez.
Je les mets dans mes poches, puis à un moment donné...
Et puis après, Laure, elle vous fait les poches, puis là,
mais
là...
mais c'est Laure qui a commencé, finalement, tout ça.
Parce qu'elle s'est dit qu'il y avait... Elle a fait fonctionner son esprit critique, non? Elle a dit...
Elle avait juste un esprit pur. Oui. C'est tout.
Est-ce que maintenant que vous avez dit au tout début, la poésie au début, avant d'en écrire, puis avant que je soupçonne qu'elle existait, je la trouvais ennuyeuse et tout.
Je ne lisais pas de poèmes.
Maintenant, vous en lisez?
J'ai bien essayé. Je dois dire que oui. En tout cas, je lis Violaine, tu sais,
oui.
Parce que avant les bâtons à message, avant les Tchusnostaken, Laure a fait un bouquin. Elle a réuni des poètes québécois qu'elle a jumelé à des Indiens. Voilà.
Donc, vous avez lu d'autres poètes à ce moment-là? Vous avez pris connaissance de leur œuvre?
Oui, mais avant.
Avant.
Je connaissais des poètes comme José Aclin.
Oui, qui est ici ce soir. Oui.
Et puis, je connaissais... Paul Chamberlain,
oui.
Puis je connaissais, Pourpé, il travaille chez Renaud, hein? Joël Pourpé.
Ah oui.
Tu te souviens quand on allait manger chez Michel Depaty? C'est comme ça, j'ai connu, vraiment, c'était ma rencontre avec la poésie et des poètes.
Et qu'est-ce qui vous plaît chez ces poètes que vous avez notés?
Ben, ils sont gentils.
Ah donc, c'est le poète lui-même qui vous plaît? Mais c'est vrai c'est lié, c'est peut-être vrai que c'est lié étroitement le poète et sa poésie.
Et sa gentillesse.
Oui. Et donc, un poète idiot ou méchant, il ne peut faire que de la mauvaise poésie.
C'est trop simple.
Ouais.
Non, ouais. Mais tu sais, quand tu dis un poète, ce qu'il écrit, souvent, il va le chercher dans son âme, ce qu'il écrit d'abord.
Oui.
D'abord, c'est comme moi, quand j'écris, je ne vais pas le chercher dans ma tête. C'est quelque chose que je ressens. Hein? Il ne vient pas dans ma tête. Mais là, bibi, tu vas écrire ça, puis ça va être joli parce que ça rime avec ça. Non.
Ouais.
C'est parce que c'est quelque chose qui me vient de l'intérieur avant tout.
Oui, et donc Joséphine Bacon, en tant que lectrice, c'est ce que vous allez peut-être, ce à quoi vous êtes attentive chez dans la poésie des autres, la poésie écrite du cœur, celle que vous percevez comme étant écrite du cœur.
Un poète, il faut qu'il vienne te chercher quand tu le lis.
Oui.
Il faut qu'il te dise quelque chose, il faut même qu'il t'enseigne.
Et que peut enseigner la poésie?
Ben, il peut enseigner toutes les qualités. Il peut enseigner la bonté, la beauté. On peut apprendre plein de choses.
Oui. Ouais. Et ça, ce qui n'empêche pas de certains poèmes très beaux d'être aussi très triste, douloureux.
Ben oui, ça nous enseigne aussi le chagrin, la peine. Je n'ai pas dit que la poésie était nécessairement toujours gaie.
Oui.
Elle peut être triste aussi.
Oui.
Elle t'amène à beaucoup d'émotions, à beaucoup de sentiments.
Oui. Le rêve est au cœur de vos poèmes, comme il est au cœur, de la spiritualité autochtone, enfin, dans ces manifestations que je peux connaître. Je pense entre autres aux aborigènes d'Australie qui ont élaboré tout un mythe autour du rêve et d'un temps antérieur qu'il s'agit de rêver. Alors, tenons-nous-en à vos poèmes. Je cite des vers, puis peut-être que vous pourrez lire les poèmes ou un choix de poèmes. « Rêve, tu m'emportes dans le monde des visions qui chantent ma vieillesse. » ou alors « Comme la terre, nous rêvons », ça c'est page 18, ou « Toi qui connais les rêves », ou « Libérer les rêves », ou alors « Ton âme a rêvé bien avant toi ». Quelle est la force du rêve en poésie?
Ben, c'était pas dans la poésie que j'ai pensé, moi.
Ah.
Je pensais aux anciens, parce que les anciens, ils vivaient en parallèle avec leurs rêves. Tu vois, c'est dans tes rêves que tu trouvais comment je dirais ça en français, ton rêve t'enseigne ce que tu vas vivre.
Oui, toi qui connais les rêves, donc il y a une connaissance des rêves.
Oui, les vieux, ils connaissaient les rêves. Les rêves leur racontaient, leur parlaient. Tout était dans le rêve.
Est-ce que les...
Et puis c'est là aussi que tu prenais plein d'enseignements, par exemple, tu vois, pour le tambour. Tu vois, le tambour, c'est tellement ne devenait pas un quelqu'un qui joue du tambour. C'est pas n'importe qui pouvait jouer le tambour. Il fallait d'abord en avoir rêvé trois fois. Tu vois, mon grand-père, Horébis, là, tu vois, lui, il a commencé à jouer le tambour, il avait 88 ans. Mais j'ai dit, pourquoi à 88? Mais il dit, parce qu'il y avait des plus vieux que moi.
Et il n'avait pas rêvé trois fois?
Il avait rêvé trois fois.
Il avait rêvé mais trois il, fois. Il s'inclinait
mais
devant les plus anciens.
Les plus anciens qu'eux autres, par respect ou... C'était comme ça. C'était juste... c'était tellement important d'être vieux. Tu vois, aujourd'hui, nos vieux, on les enferme, on les envoie n'importe où, ils vieillissent seuls, c'est à peine... Si on va les voir une fois de temps en temps, mais les vieux pour nous, tu sais, dans le temps que on était fort, puis qu'on était fort dans notre identité, mais toute notre connaissance venait d'eux, puis il fallait les respecter.
Ouais.
Ah oui.
Il y a
un proverbe
napolitain, vous voyez, c'est une autre culture, mais il y a un proverbe napolitain qui dit, un proverbe paysan, « Un vieillard au coin du feu vaut quatre jeunes hommes dans les champs. »
Je crois que
c'est vrai.
Ah oui. Puis je trouve... Moi, je trouve aujourd'hui, il faudrait tellement en prendre soin de nos aînés. Moi aussi, tu sais que quand je suis allée à Chicoutimi la semaine dernière, c'est rendu qu'on me demande de faire la prière parce que je suis considérée comme l'aînée.
Et ça vous fait plaisir?
Mais bien sûr.
Oui.
Bien sûr, ça ne me dérange pas d'être vieille.
Oui, c'est un cadeau, en fait.
Ben, Corda, c'est comme si on me disait, ben là, t'es rendu à un âge respectable, tu peux faire la prière.
Ouais. Est-ce que dans les communautés inoues actuellement, les anciens sont bien traités?
Encore, oui. Encore, mais comme dans toute société, tout se détériore malheureusement, tranquillement. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est vraiment devenu acculturé. Ah, on oublie comme... Mais quand même, tu sais, moi, je garde espoir toujours. Oui. Tu sais, qu'avec juste un petit peu, hein, juste un petit peu de à recommencer à compter comme les vieux comptaient, on pourrait tous se retrouver dans le même respect que les autres ont vécu.
Oui, parce que ce danger que vous évoquez, ce danger, on pourrait dire d'amnésie, d'acculturation, mais en fait, elle guette toutes les cultures. À partir du moment où on se coupe des aînés, on se condamne à être idiot et résolument présent, non, dans le présent.
Oui, parce que... comment je pourrais vous dire... finalement, on se condamne nous-mêmes, hein?
Oui.
Parce qu'on refuse qu'ils ont toujours quelque chose de très beau à nous donner et à nous offrir.
Oui. Revenons au rêve. Vous avez dit que quand vous avez écrit ces vers, vous ne pensiez pas à la poésie, mais au récit, à la tradition. Quelle est la fonction du rêve dans la tradition?
Ben, c'est comme je disais, le rêve...
C'est la réalité aussi?
Ben, c'est une grande partie de la réalité. Il faut rêver pour... Il faut d'abord rêver pour faire de ta réalité quelque chose de bien ou de beau.
Ou d'entier.
Ou d'entier aussi, complet.
Et est-ce que tout le monde peut rêver?
Pourquoi pas, dans le rêve? Le rêve appartient à tous.
Oui, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a un sens banal au mot rêve, qui est celui qu'on peut utiliser, enfin, moi, tous, dans la vie...
Cette nuit, j'ai rêvé,
Oui, c'est ça, dans la vie de tous les jours. Mais au sens où vous l'entendez, dans la culture Innu, c'est beaucoup plus fondamental, je dirais.
Il fallait rêver. C'était quelque chose... C'était... Tu sais, il fallait rêver. Le rêve, c'était... fallait que tu rêves.
Vous rêviez au pensionnat?
Oh mon Dieu, c'est loin, là, le pensionnat. Oh, bon, mon Dieu, j'ai déjà rêvé. Mon Dieu, non, pas vraiment.
Et après, quand vous êtes arrivée à Montréal, vous rêviez?
J'ai recommencé à rêver quand j'étais enceinte de mon fils. J'ai rêvé à des ours polaires. J'ai rêvé... Ça a été mon premier rêve de tambour. Mais il n'était pas né encore.
Et après, les rêves vous ont accompagné?
Après ça, j'ai rêvé... Mais je vous parle de rêves importants.
Oui,
là,
oui, bien sûr.
Qui te parlent et puis qui t'enseignent. Après ça, j'ai rêvé une deuxième fois au tambour. Et puis, c'était dans un rituel de chaudron. Et puis, celui qui jouait le tambour, c'est celui qui... C'est un blanc qui reste avec Inouchko, puis c'est lui qui jouait du tambour. Puis là, tu sais, je me souviens de mon rêve comme si c'était hier. Puis là, tu sais, je regarde, je me souviens encore des chaudrons. Tu sais, c'était des chaudrons en fonte, il faut les brûler, tu sais, pour qu'ils deviennent comme des téfales. Et puis, tout d'un coup, j'ai entendu, tu sais, le tambour. Puis là, j'ai dit, qui joue du tambour? Puis là, j'ai regardé, puis c'était François qui jouait du tambour. Puis je savais pas qu'il jouait du tambour, François. C'était mon deuxième. Puis ça, c'était un rêve. C'est des rêves importants. C'est des rêves, tu sais, c'est comme des rêves magiques qui t'enseignent quelque chose ou qui t'amènent... quelque part.
Et donc, selon la tradition, que faut-il faire avec ces rêves? Les raconter, les vivre, les...
En tout cas, je ne sais pas, je ne suis pas assez connaisseuse de rêves, mais les rêves chez les Innu, sont importants. Et tu vois, c'est les deux rêves importants que j'ai faits, là. Il faudrait que je les raconte à un vieux, puis lui pourrait me dire ce que les rêves me disent.
Ah oui, donc on peut interpréter les rêves aussi.
Oui, bien sûr.
Mais ce sont encore là les anciens qui peuvent le faire.
toujours.
Oui. Est-ce que les anciens, aujourd'hui, ont pu transmettre quelque chose aux jeunes générations, aux plus jeunes? Ou est-ce qu'il y a eu une coupure, mais...
Mais tu vois, avec l'arrivée de la télévision, puis de l'informatique, des ordinateurs, de tout ça, il y a comme eu une coupure quand même. Tu vois, t'sais, quand les jeunes ont commencé à écouter la télévision, les vieux racontaient plus à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Mais c'est pour ça, tu vois. Parfois, il est bon de retourner un peu en arrière pour se reprendre, pour reprendre sa propre identité.
Oui. Que veut dire un vers, moi, qui m'a frappée, c'est un vers vertigineux, « Tu deviens l'ancêtre de tes ancêtres ».
Oh, mon
Peut-être
Dieu.
Peut-être vous pouvez nous lire le poème où il apparaît, c'est page 126.
126,
ça. Oui, et puis après, nous essayer de... Même si vous ne voulez pas raisonner, au moins nous expliquer, sans raisonner, simplement nous expliquer, même pas nous expliquer, nous redire au fond.
Mais ça, moi les vieux là, ils sont toute ma vie. C'est eux qui m'ont tout donné, qui m'ont vraiment tout donné. Et puis j'ai un grand respect pour eux. Alors j'ai écrit ça en pensant à eux. Tes cheveux blancs racontent tant de récits, tant de parcours. Les distances t'accueillent dans la simplicité des cérémonies. Aucun festin n'ose t'inviter sans les maîtres, qui nourrissent les corps affamés de savoir ancien. Le dos courbé, tu traverses les temps. Tes yeux ne connaissent aucune vieillesse, tout comme le chasseur, les bras tendus sur sa terre dénudée. Les lacs, les rivières, les ombres, la truite grise illuminent son champ, son visage. Il chante pour danser avec la toundra. Et que demain, hier, soit maintenant, ton pas léger soulève l'espoir. Un chant se fige dans ta mémoire. Tu deviens l'ancêtre de tes ancêtres.
Et en Innu, comment tu deviens l'ancêtre de tes ancêtres? Oui.
Anoutishtina Mohamana. Nakamon Petagon. Nakamon Petagon, c'est maintenant le second. Anoutish.
Alors, interprétez si vous voulez, comme on interprète un rêve, tu deviens l'ancêtre de tes ancêtres. Quelle lecture possible?
Quelle lecture? Tu sais, les vieux là, à chaque fois qu'ils racontent des récits, ils racontent toujours les récits d'un ancien. Plus ancien qu'eux, et encore plus ancien. Ils vont très, très loin dans l'ancien, qu'ils deviennent les ancêtres de leurs ancêtres.
Ah oui. Donc, ils abolissent le temps, en quelque sorte.
Ils abolissent le temps parce que ce qu'ils racontent...
Oui. A été raconté avant.
C'est un vieux qui l'avait raconté. Puis ce vieux, lui aujourd'hui, il est vieux. Mais c'est un vieux qui lui a raconté. Et puis il y a ce vieux qui lui a raconté, c'est un autre vieux qui lui avait raconté. Ouais. Ainsi de suite. Et puis loin, loin, loin. Ouais. Et puis tu peux aller tellement loin que celui que tu écoutes te le raconter, il devient l'ancêtre de ses ancêtres.
Oui, oui. Donc, il est au même point que l'ancêtre. C'est magnifique, c'est vertigineux, c'est magnifique. Et puis, on va aller dans un instant, on va se tourner vers le public pour entendre ses commentaires ou ses questions, mais on renoue avec la chaîne de solidarité qui est au cœur du recueil, hein, qu'on a
bien
évoqué
sûr.
Au tout début,
ouais.
Là. Ce vieux qui raconte,
quand le vieux...
Personne n'est seul dans cette histoire. l'art. Ils sont tous liés, les uns.
Oui.
Homme ou femme?
Bien sûr.
Il n'y a pas de différence?
Il n'y en a pas de... Dans ma langue, il n'y a pas le masculin, il n'y a pas le féminin.
Ah bon? Parce qu'il n'y a pas cette différence sexuelle?
Parce que c'est bien d'être égal des fois.
Oui, bien sûr. On peut perdre, mais on peut être égal aussi, oui. Alors écoutez, on va aller vers le public qui veut peut-être commenter. Il y a un micro qui est là, je vous demanderai de vous approcher du micro parce que nos amis de Radio Spirale veulent pouvoir évidemment bien capter votre voix pour les auditeurs. Alors, questions, commentaires, réflexions? Alors, madame.
Chinis Kumiten.
Hey,
merci, Madame Bacon. J'ai une question peut-être indiscrète, puis il y a plein de gens qui doivent connaître la réponse, mais moi, je ne l'ai pas. Pourquoi on vous appelle Bibir?
Oh, mon Dieu! Bibir, mais ça vient du pensionnat, parce que Joséphine, en Inou, on dit Bibine. Et puis les religieuses, ils comprenaient Bibit. Alors, et puis comme les Indiens, ils sont moqueurs. Et puis quand on a su, c'était quoi une bibite? Fait qu'ils ont dit bibite, bibite, une bibite. Fait que
vous avez gardé.
C'est resté parce qu'eux aussi, ils ont continué.
Ouais. Merci, Bibi. Il y a une autre question. Il y a longtemps, j'ai fait un jeu où on devait tenir un bâton dans la main. Tant qu'on n'avait pas le bâton, on ne prenait pas la parole.
Ah, le bâton de parole qui appelle.
Oui. D'accord. On me disait que ça, on devait ça aux Amérindiens qui avaient l'art d'écouter quelqu'un qui parle sans lui couper la parole. Alors nous, comme on n'était pas capable de faire ça, on nous a mis dans les mains un bâton de la parole. C'est vrai, ça existe?
Ça existe, bien sûr, bien sûr.
Merci.
Quelle est la fonction du bâton à parole? C'est de régler le...
Non, le bâton de la parole, c'est que si tu as quelque chose à dire ou à partager, ben tu le dis, tu termines tout ce que tu avais à dire. Après ça, tu le donnes à ton voisin s'il a quelque chose à dire. Et puis ainsi, le bâton nomadise entre toute l'assistance qui est là.
Ah, et donc, c'est un signe aussi de la parole.
De respect
de
aussi.
De respect, oui.
Ouais.
En tout cas, ça fonctionne puisque c'est repris dans d'autres, dans d'autres milieux pour régler les interventions. Ici, dans l'ordre ou dans le désordre, sans bâton de parole, il y a un bâton debout, là, il y a un micro. On pourrait, mais le micro ne va pas bouger.
C'est un bâton qui parle avec un écho.
Oui. Et puis, il est immobile, ce micro. Il n'est pas nomade.
Oui,
hein?
Il n'est pas nomade. Il faut se nomadiser soi-même.
Oui. Alors, qui veut se nomadiser et aller au micro? Commentaire? Question? Madame, allez-y. On est entre nous, donc ça se fait le plus simplement du monde.
Petite information pour ceux qui préféreraient lire plutôt que d'aller à l'ONF, regarder le film. Le petit grand européen a été publié chez XYZ dans les années 80, je crois.
Ah bon?
Sylviane Soulaine, qui vous doit le titre d'ailleurs, Joséphine. Voilà. Alors, vous pouvez même le trouver dans les bibliothèques de réseau de Montréal.
Donc, c'est le texte du film qui fait l'objet du livre?
Non. Sylviane Soulaine a écrit la biographie
de Johann Betz. Très bien.
Et il y a des passages où on comprend très bien que Johann Betz a été très impressionné par les Autochtones qu'on appelait montagnais à l'époque, les Inuits.
Voilà. Oui. Vous connaissiez ce livre, sans doute, au moment de faire votre recherche.
Oui, c'est ça.
Donc, vous connaissiez. Oui. Oui, alors voilà.
Bonjour, Joséphine. Merci pour cette rencontre.
Peut-être baisser un peu le micro, qu'on vous entende bien.
Ça me fait plaisir de te voir.
Oui, moi aussi.
Oui.
J'ai posé une question un peu personnelle. Je ne savais pas que tu avais été pensionnaire de l'âge de 5 ans jusqu'à 19 ans, toujours dans le même pensionnat,
bien sûr.
Et c'était
dans le coin de cette île. C'était le pensionnat indien. Tu sais, il était à côté de Malio Tenam.
OK. Et à 19 ans, tu as décidé de t'en venir à Montréal?
Non, je suis allée étudier comme secrétaire à Québec.
OK.
Dans un, après Québec, ben là, comme les affaires indiennes s'occupaient des indiennes qui apprenaient à être secrétaire, je suis allée faire ce qu'ils appelaient un service training à Ottawa aux affaires indiennes. Sauf qu'ils m'ont renvoyée à l'école, à la même. Ils trouvaient que j'étais une très mauvaise secrétaire. Alors, ils m'ont renvoyée à l'école. Et puis, c'est comme ça qu'on est arrivé à Montréal, moi et Sylvia.
OK. Sylvia, c'était...
Elle, c'était la Wabernaki, là,
qui était avec
que j'ai connue. Elle aussi avait suivi un cours de secrétariat. On était, t'sais, à peu près, on devait être une dizaine d'Indiennes au Sténopôle qui appelait, là, aux affaires indiennes. On apprenait à être de bonnes secrétaires. Ouais.
Et rendu à Montréal, comment t'es tombée dans le monde...
Des Indiens? Quand je me suis retrouvée dans l'Ouest avec les Indiens, moi et Sylvia, on était itinérantes un peu. Alors, fait que Sylvia est restée chez Glenna Matouche, qui est une grande artiste aujourd'hui. Puis moi, je suis restée chez Philippe Awachiche. Et puis, il avait une blonde qui s'appelait Anne-Marie Raymond. Tu sais que... En tout cas. Alors... je suis restée chez eux. Et puis... puis j'ai connu Alanis Obomsawin à Ottawa, mais elle faisait pas du cinéma encore. Elle travaillait pour la maison Vincent. Je pense que c'est une compagnie de perruques. Alors, puis c'est comme ça. Puis à un moment donné, Gilles Carle cherchait quelqu'un pour coacher Daniel Pilon pour son film Red. C'est comme ça que je suis arrivée dans le monde du cinéma, en 69.
Et ça s'est enchaîné.
Et c'est ça. Ouais, voilà. Ouais.
Merci.
Ben, je t'en prie.
Commentaire, question? Oui, madame.
J'ai une question, mais j'ai une bonne voix.
Oui, okay. Ben, il faut.
Vous avez parlé tantôt d'anthropologie, mais
c'est
encore une question personnelle. Comment
fait-il
que vous avez les yeux bleus?
Oh mon Dieu, c'est du métissage. Ouais. Je suis née d'une mère d'un père montagnier aussi, d'Inno, mais sauf que j'imagine dans les temps passés, hein, il y a dû se passer des trucs derrière les buissons. Alors, me voilà avec les yeux.
Oui. Il y a une goutte de sang blanc, donc,
en part, vous,
comme beaucoup de blancs, une goutte de sang indien.
Comme tous les Québécois, on est tous un peu métis, hein, oui. Même nous.
Oui. Oui. Questions, commentaires? Oui, madame, allez-y.
Personnel. Est-ce que...
c'est elle qui fait de la poésie du cœur, vous voyez, la poésie venant du cœur.
Est-ce qu'un jour vous allez écrire votre rêve sur les ours polaires?
Ah, moi, il est écrit.
Ah oui, dans ça, là?
Non, pas là-dedans. Ah. Il était... Marraine, tu te rappelles de... Hein, Francine? C'était dans quelle revue? Ma reine, c'est Francine Saillant, ma grande amie. Oui. Je lui avais raconté, et puis elle a tout écrit. Et puis elle a été publiée dans la revue.
Elle peut peut-être nous donner la référence, là?
Laure, tu sais, c'était dans quelle revue?
Ah, c'est dans la revue Liberté.
Voilà.
Ah, ben oui, c'est le numéro spécial sur les Indiens.
Oui, voilà.
Oui, oui, oui. J'étais à la revue Liberté à ce moment-là.
C'est pas vrai, mais oui. C'est génial.
Mais oui, c'est très bien. Ouais. C'est très bien.
Et c'est cool.
Oui. Hein? Ah oui, on était très fiers de ce numéro. Oui. Alors, ça répond à votre question.
C'était dans quelle année?
C'était en 93, je crois. J'étais au comité de rédaction à ce moment-là.
Oui, c'est ça.
92 ou 93.
Ouais.
Mais de toute façon, ça s'appelle « Liberté aux Indiens ». Hein, c'était titre.
Oui.
Et c'est la revue Liberté. Vous allez le trouver, pas en kiosque, mais en bibliothèque. Et puis, vous pouvez l'acheter aussi auprès de la revue. Voilà, c'est la publicité de Liberté.
Oui, et il est écrit en français.
C'est
Mais à moins que je le traduise. Mais vous pouvez me trouver, je suis facile.
D'accord.
Mais je vous en prie.
Vous avez piqué la curiosité des gens là, avec ce... Les ours polaires, oui. Oui, très bien. Non, mais on a bien vu que les rêves, c'est fondamental. Là. C'est pas banal, c'est pas anodin. Questions, commentaires? Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, moi, je voudrais vous entendre encore une fois lire un poème. Et vous avez parlé de Gilles Carle tout à l'heure. On ouais. a parlé au tout début de Chloé Sainte-Marie. Si vous vouliez, il y a un poème magnifique. C'est page 108 à 109, si vous voulez, mais vous pouvez aussi choisir d'autres poèmes. Okay. Mais moi, j'aimerais bien vous entendre sur... Puis vous pouvez en faire deux ou trois, là. Le poème que vous dédiez à Chloé Sainte-Marie, à Gilles Carle, pour moi, il est magnifique. Si vous pouvez le lire en français.
Bien sûr. Dessine-moi l'arbre que tu es. Dessine-moi la rivière que tu as racontée. Dessine-moi le vent qui t'a fait voyager. Dessine-moi le feu qui brûle en nous. Dis-moi que je suis ton au-delà. Dis-moi que tu es mon au-delà. Toi, l'animal blessé, tes ancêtres t'ont conduit à moi pour me raconter les images de tes rêves. Reste un peu dans ma mémoire. Toi, l'homme, l'animal blessé, reste un peu dans ma mémoire. Tes murmures sonnent la sagesse d'une vie vécue. Ton regard devine la paix. Ton cœur bat au rythme des battements d'ailes de l'aigle. Ton sommeil est habité par les esprits de ton peuple métis silencieux. La nuit étoilée t'emporte dans un monde qui te garde vivant.
Magnifique, magnifique. Et pouvez-vous choisir un poème que vous... Et puis aussi en français, mais en inou, pour okay. qu'on ait la langue dans les, okay. dans les oreilles, qu'on emporte ce souvenir.
OK. J'en ai un que j'aime bien. J'en ai même deux que j'aime bien.
Ah, c'est bien.
OK. Pabawasik, Pokhenman, Atiwabu. Til kabok kohe namukwin namatmen meskno nte etat masna wil nakahamok ko kamessa hiwenian wapstana pu nakchaho hikatian jeji malwamia ohwapu takhan nabwamo wil nakuitamak etan chihokho wen Wil kajitab mokuyak ote stasinat. Papa wasik ti wabu, celui qu'on espère. Tu me mènes vers Masnak, qui offrira la truite grise de notre terre. Et si j'ai froid, Wabstanabu me gardera au chaud dans mon sommeil. Oshwabu m'emportera près de Tihakoko. Celle qui veille sur les battements de la terre dans mon cœur. Babawasik, Wetagos, Abutiwan Konwentaman, Chamil Statnigan, Ni Kantoot, Abu Abstayan, Siumahanegan, Namatnigan Hawet. Tin tuitamon nteseita teyat, abunta trot nioniyat, stahamna ninan kahiwenyat. Tababionogon mok ninat senten tegahinmui. Napuamon tuabmetan natsenten eshuabmin mohwat. Babawasik, ce soir, tu m'offres ton omoplate. Chasseur démuni, je n'ai pas besoin de carte, car j'étends ton omoplate dans un feu de braise qui me guide vers toi. éparpillé, tu me pardonnes. Tu nous délivres de la famine. Je te vois. Demain, tu m'attendras dans la toundra.
Merci. Merci. Papa Ouassik, je ne sais pas si je prononce bien, c'est le maître du caribou.
Absolument.
Oui. Il y a un autre poème où il est question de lui. Je crois que c'est une figure importante, hein, le maître du caribou.
Oh mon Dieu, c'est un grand maître.
Page 44, il ne répond plus aux rêves, Papa Ouassik.
Ok.
Alors pourquoi c'est donc qu'il y a une coupure, parfois il y a un non-échange, c'est possible ça dans...
Mais tu vois, si on le gaspille, si on ne prend pas bien soin, si on l'éparpille et si on le gaspille, et le maître du caribou va nous priver.
Il ne répond plus aux rêves.
Il ne répond plus aux rêves et puis il ne nous donne plus à manger non plus. Parce que c'est dans le rêve que le Papa Ouassik vient nous parler. Papa nous parlait, qui venait parler aux chasseurs.
Oui, donc on peut aussi perdre de vue Papa Ouassik. Et on peut le retrouver.
Il peut ne pas nous répondre.
Il est toujours là.
Il est toujours là, mais il ne répond pas.
Oui, mais on peut aussi le retrouver plus loin, comme vous l'avez montré.
Oui,
et l'entendre. Oui. Le maître du caribou. Alors écoutez, merci Joséphine Bacon. Ce n'est pas tout à fait terminé. Pour ceux qui voudraient, vous êtes là, je crois, vous êtes disponible pour les gens qui voudraient que vous dédicaciez leur exemplaire. Donc, ou si vous voulez échanger en tête à tête, on va dire, en tête à tête au milieu des gens avec Joséphine Bacon. Je vous dis tout de même que ce n'est pas terminé. La série littéraire internationale Métropolis Bleue, il y a eu des rencontres passées, il y a des rencontres avec venir. La prochaine rencontre, ça s'appelle La nuit des malaxeurs. Alors, je vous invite à prendre ici un dépliant. Ça a lieu vendredi 20 novembre à 22h, au Pharaon Lounge. C'est dans le Vieux-Montréal, au 139 rue Saint-Paul-Ouest. Alors, c'est une soirée de poésie présentée en collaboration avec les productions SIC et qui va donner la parole à 7 jeunes poètes et romanciers aussi de la relève. Alors, je vous les nomme. Simon Boulris, Nicolas Charette, Marie-Noëlle Gagnon, Stéphanie Kaufmann, François Guérette, Charles Drouin, William S. Messier, Max Ferrandon. Et puis, il y a 2 animateurs hors pair, José Atlin, poète, qui est ici avec nous ce soir et qui s'est aussi accoquiné avec Joséphine Bacon à quelques reprises. Et puis, Bertrand Laverdure, donc vous êtes les co-animateurs. Alors, ça, c'est le 20 novembre, j'ai dit, c'est ça, 20 novembre à 22h, parce que vous êtes des couches-tard, si j'ai bien compris. Ah, c'est après la fermeture. Ah ben oui, c'est vrai, c'est après la fermeture du salon, donc ça permet sur sa lancée d'aller entendre de la poésie. Alors, merci à vous, merci mille fois à Joséphine Bacon.
Merci à toi.
Merci, c'était très agréable. Quoi, c'est seulement pour dire bonjour. Comment on dit bonsoir?
Il n'y a pas de bonsoir, mais on peut dire bye.
Bah, non, je veux le dire en
inou. On dit yamé.
Yamé, voilà, je veux le dire en inou. Alors, et merci à Olivier Ri, merci à Radio Spirale. Prochain rendez-vous, à bientôt, au revoir.